La Légion bretonne et autres nouvelles de la forêt d'Orléans. Recueil de nouvelles de Frédéric Delinière. Édition de l'Écluse. La Légion bretonne. Enfin, Corentin arrivait en lisière de la forêt d'Orléans. Pour cela, il avait dû trahir sa parole, mentir, voler. Et même, il avait failli tuer. Mais il aurait fait n'importe quoi pour échapper à Kerfranc, la ville de boue. Ainsi les Bretons bretonnants avaient-ils surnommé l'immonde camp de Conlie. Le mouroir dans lequel des politiciens indécis et peureux avaient enfermé les intrépides volontaires bretons. Corentin était exténué, malade et complètement démoralisé. Ses deux compagnons d'infortune étaient morts en chemin. Il avait dû se résoudre à abandonner leurs cadavres dans un fossé après avoir dit, de façon plus qu'expéditive, la prière des morts. Mais il lui avait été impossible de les ensevelir. Faute de disposer d'une pelle, il aurait dû creuser les tombes avec ses mains. Il n'en avait pas eu le courage, trop épuisé pour cela et aussi trop effrayé de se faire surprendre alors qu'il effectuait la macabre besogne. Et maintenant, tremblant de fièvre et de faim, voilà qu'il atteignait les premiers arbres de la forêt. Son cheval boitait depuis 3 jours. Son brave cheval, le seul bien qu'il n'eût pas volé pour rejoindre la Légion bretonne, dont la rumeur affirmait qu'elle était cantonnée, sous les ordres de Félix de la ville au comte, en forêt d'Orléans. Son cheval, il l'avait trouvé 15 jours auparavant, errant tout harnaché au milieu des morts, sur un champ de bataille. Sans lui, malade et affamé comme il l'était, il n'aurait jamais pu atteindre la forêt. Corentin ne connaissait pas les lieux. Il ignorait où était le régiment des soldats bretons. Mais le bruit courait qu'il menait une guerre d'escarmouches contre les Prussiens et qu'ils en sortaient toujours vainqueurs. S'il avait pensé que les habitants de cette forêt sauraient où trouver les combattants et le mèneraient près d'eux, il avait compté sans la maladie et l'épuisement. Corentin était déjà à moitié inconscient quand il atteignit le couvert des bois. Il laissait les rênes longues et c'est son cheval qui le menait. Il grelottait dans ses vêtements trempés. Et dans son délire fiévreux, il se croyait toujours prisonnier de l'humidité putride du camp de Conlie. Il marmottait entre ses dents des paroles d'encouragement qu'il adressait aussi bien à lui-même qu'aux fantômes de ses compagnons d'armes dont il croyait apercevoir les silhouettes dans la brume qui montait du sol. Il les hélait à mi-voix, murmurant leurs prénoms et mêlant les mots de breton aux tournures de galop. La soif tourmentait Corentin et sans doute aussi sa monture. Le cheval s'était dirigé d'instinct vers un point d'eau. Quand ils arrivèrent près d'un ruisseau, machinalement le cavalier mit pied à terre, pressé de se désaltérer. Il avait trop présumé de ses forces car il s'effondra sur la berge, évanoui. Son cheval, lui, but à satiété et fidèlement demeura près de lui à brouter. La nuit commençait à tomber et, avec elle, l'humidité. Un brouillard de plus en plus dense se levait d'un étang voisin. Une barque menée par une femme enveloppée dans une grande cape blanche émergea des roseaux. Sans doute surpris par la clarté de cette présence, le cheval se mit à hennir. La femme, quant à elle, toucha la berge et tira sa barque à terre. Puis, comme le cheval s'approchait en soufflant bruyamment, elle le prit par la bride pour le calmer et l'examiner. Elle comprit vite, d'après son harnachement, que ce n'était pas, contrairement à ce qu'elle avait craint, un cheval de l'armée prussienne. Aussi se mit-elle en quête du cavalier dont elle pensa qu'il devait être en difficulté. Elle buta presque, dans l'obscurité qui était maintenant tombée, sur le corps inanimé de Corentin. Constatant qu'il brûlait de fièvre, elle le hissa en travers du cheval qui se montra docile durant toute l'opération. Heureusement, car même si elle était forte, le cavalier était grand et lourd pour elle. Et guidant la monture, elle l'emmena jusqu'à sa cabane cachée au cœur du massif forestier. Elle avait des talents de guérisseuse et disposait des plantes nécessaires pour faire tomber la fièvre. Elle prépara une tisane de saule et de salicaire qu'elle fit boire à l'homme toujours inconscient. Et elle le couvrit avec tout ce qu'elle put trouver de chaud dans sa masure. Elle se dit que si, malgré son épuisement visible, il vivait jusqu'au matin, il serait sauvé. Comme il s'était mis à pleuvoir, elle fit entrer le cheval, après l'avoir bouchonné, sous l'auvent de la chaumière où elle attacha l'animal devant un ballot d'herbe odorante. Corentin s'agitait dans son sommeil et, soudain, il se mit à hurler puis à sangloter. Dans son délire, il revivait le cauchemar de la ville de boue et s'y sentait toujours prisonnier. Il revoyait son meilleur ami mourir du typhus, sans même pouvoir s'allonger, contraint de demeurer debout, enfoncé dans la boue jusqu'aux genoux. Il revoyait les yeux suppliants de son camarade et les frissons de fièvre qui le secouaient. Il entendait ses quintes de toux désespérées. Englué lui-même dans la fange, presque jusqu'à sa taille, il tentait d'arrêter un officier dont le cheval n'arrivait plus à avancer car la boue lui montait jusqu'au poitrail. Il s'accrochait à l'étrier du gradé, il suppliait pour qu'on leur apportât du secours, les mains jointes. Il se serait agenouillé s'il avait pu. Mais l'officier se dégageait et passait, sans un mot, sans un regard. Et Corentin et son camarade demeuraient seuls, abandonnés avec des milliers d'autres volontaires bretons, sous la pluie glaciale qui tombait sans discontinuer, mais n'atténuait pas la puanteur de ce charnier fangeux. Bientôt, Corentin sentit son corps s'enliser et s'enfoncer dans le bourbier. Quand la boue atteignit son visage, il se mit à hurler et à se débattre en tous sens comme un animal pris au piège. Corentin émergea de son cauchemar, tremblant de fièvre et de terreur, et tout entortillé dans ses couvertures. Il mit un moment à se rendre compte qu'il se trouvait en sécurité. Une jeune femme, penchée à son chevet, lui passait sur le front un linge humide et murmurait des paroles apaisantes. Il voulut l'interroger pour savoir où il se trouvait, mais elle lui posa un doigt sur les lèvres, lui recommandant de se taire et de ne pas s'agiter. Elle lui fit boire, à petites gorgées, une tisane chaude et amère. Après quoi, il replongea dans un sommeil plus calme et resta endormi jusque fort avant dans la matinée. Quand Corentin s'éveilla, sa fièvre était tombée. La porte de la cabane était ouverte et les rayons du soleil venaient baigner le pied de son lit. Le jeune homme se sentait très faible et tout courbaturé. Si faible qu'il n'avait même plus la force de s'interroger sur la façon dont il avait été conduit en sécurité en ce lieu, ni de s'inquiéter pour savoir si c'était par des ennemis ou par des amis. Il avait renoncé à lutter et il s'abandonnait au destin en songeant que, quel que soit le sort qui lui était réservé, il n'était plus en mesure de s'y opposer. Et ce sort ne pourrait pas être pire que ce qu'il avait connu à Conlie avec ses camarades de misère. Puis, vaincu par la fatigue, il retomba dans une somnolence bienfaisante. Quand il ouvrit à nouveau les yeux, Corentin pensa qu'il était toujours en train de rêver. Debout au pied de son grabat, se tenait Haël de Kermendec. C'est pour le rejoindre que Corentin s'était échappé de Conlie et avait entrepris ce périple à l'issue incertaine. Et maintenant, il ne savait par quel miracle, Haël, auréolé par les rayons du soleil, dans un uniforme impeccable et orné des hermines bretonnes, se tenait là, devant lui. Corentin tenta de se redresser pour saluer l'ami de son père et lui manifester sa joie de le retrouver, mais celui-ci, en se penchant pour l'embrasser, le força à se recoucher. Ne t'agite pas, ne parle pas, tu es très faible, il faut te reposer, tu me raconteras plus tard. Aubeline est venue me chercher car tu m'appelais sans cesse dans ton délire. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité auprès d'elle et elle va bien te soigner, tu seras bientôt guéri. Corentin, ne tenant pas compte de ses conseils, eut la force de murmurer. Tu sais, l'armée de Bretagne, on n'a pas d'armes, on nous laisse mourir dans la boue. Comme il recommençait à s'agiter, Aubeline intervint. Il faut qu'il reste tranquille. Il est très choqué et très malade. Il ne faut pas faire revenir la fièvre. Et, ce disant, elle lui fit à nouveau boire un bol de tisane amère. Corentin, grâce à sa robuste constitution, entra bientôt en convalescence. S'il était encore faible et peu résistant, il n'avait plus ces accès de fièvre qui le secouaient de frissons, et surtout le désespoir qui l'avait accompagné durant son séjour au camp et sa fuite éperdue vers la forêt d'Orléans relâchait peu à peu son emprise. Et il reprenait goût à la vie, dans le calme de cette modeste chaumine au cœur des grands arbres. La présence d'Aubeline n'était pas pour rien dans sa renaissance. La beauté de la jeune femme et sa douceur contribuaient à lui faire oublier le cauchemar qu'il avait vécu avant de déserter. Certes, il n'avait pas été sans remarquer qu'Aubeline semblait apeurée en présence d'hommes inconnus et aussi qu'elle était grosse et que cela commençait à se voir. C'est à elle qui révéla à Corentin la terrible mésaventure d'Aubeline. C'était lui et quelques-uns de ses francs-tireurs bretons qui avaient trouvé la jeune femme blessée et évanouie au bord d'un chemin. Elle avait été victime d'un groupe de soudards prussiens qui l'avaient maltraitée et violée. Grâce aux soins d'Aël et à la présence des soldats, elle s'était lentement remise. Mais, malheureusement pour elle, un enfant avait été conçu lors de ce viol. Aël louait le courage de la jeune femme qui avait décidé, malgré tout, de donner naissance à l'enfant. Et aussi ses qualités de guérisseuse qui permettaient de soigner les malades et les blessés quand il y en avait parmi les francs-tireurs. Aubeline avait aussi beaucoup contribué à la bonne entente des soldats avec les gens du village. surtout avec ceux, bûcherons, charbonniers, boisilleurs, qui vivaient des ressources de la forêt, car elle les connaissait tous et était estimée d'eux. Insensiblement, sans même s'en apercevoir, Corentin s'était attaché à Aubeline. Peut-être parce qu'il avait été si longtemps sevré d'une présence féminine, peut-être parce qu'elle symbolisait pour lui son retour à la vie après l'horreur du camp de Conly, peut-être parce qu'elle était douce et jolie. Le jeune homme s'en était épris presque à son insu. Corentin était encore bien trop faible pour participer à la guerre d'escarmouche que menait la Légion bretonne. Et il en souffrait et s'en sentait diminué et impuissant. D'autant plus qu'au dire d'Aël, une grande bataille sous les ordres de Catelino se préparait. Corentin savait que son état de faiblesse lui interdirait de se joindre aux soldats. Il brûlait pourtant d'aller se battre. Ces combats, trop longtemps différés, la si longue et inutile attente sans armes et sans entraînement dans la fange de Conly avaient aiguisé son désir de repousser l'envahisseur et de s'illustrer au combat. Mais Aël le raisonna, lui démontrant qu'elle serait plutôt une gêne qu'une aide dans cette entreprise. C'est Aubeline qui lui proposa de se rendre utile d'autre façon. Elle avait bien prévu qu'après cette bataille décisive, et quelle qu'en soit l'issue, la Légion devrait évacuer les lieux si elle ne voulait pas être capturée par les Prussiens. Les hommes trop peu nombreux, s'ils étaient capables de mener une guerre d'escarmouche victorieuse, ne pourraient résister au nombre quand tous les soldats prussiens se mettraient à leur poursuite. Ce qu'ils feraient sans coup férir en cas d'attaque importante de la part des francs-tireurs. La jeune femme avait imaginé de convaincre les charretiers qui assuraient le transport des arbres abattus hors de la forêt de mettre leurs chevaux et leurs charrettes à la disposition des Bretons pour les conduire loin des zones de combat. Elle demanda à Corentin d'évaluer le nombre de véhicules nécessaires pour transporter tous les hommes de monsieur de la ville au comte, et aussi de calculer la quantité de vivres qu'il faudrait prévoir pour un long voyage à l'est du pays jusqu'aux frontières. Corentin était heureux de pouvoir de la sorte témoigner son intérêt et son affection à la jeune femme. Il savait qu'il ne pouvait risquer de gestes tendres sans l'effrayer. Aussi espérait-il qu'Aubeline comprendrait quels étaient ses sentiments en constatant de quel dévouement il faisait preuve pour la satisfaire. Pourtant, les besognes dont le chargeait Aubeline ne suffisaient pas à occuper son esprit. Et il lui arrivait souvent de se demander, avec angoisse, comment l'armée des volontaires de Bretagne avait pu se laisser piéger dans le bourbier de Conly. Et surtout, pourquoi ceux qui les commandaient avaient laissé faire. Il revoyait la troupe si nombreuse des volontaires qui, hermine au chapeau, marchait fièrement derrière le drapeau déployé du duché. Plein de vie et de jeunesse, tous ces Bretons étaient si enthousiastes d'aller combattre de l'ennemi et de défendre le pays. Comment se pouvait-il qu'on les ait laissés ainsi pourrir sans armes, sans soins et presque sans nourriture dans ce camp immonde? Quel homme politique, inconscient ou cruel, avait pu tolérer un tel scandale? Et les camarades qu'il avait abandonnés à leur triste sort pour déserter, pourraient-ils un jour retourner dans leur pays? Les combats firent rage durant plusieurs jours pour la conquête des petites villes qui se situaient autour de la forêt. Ils furent très meurtriers et firent de nombreuses victimes, tant parmi les ennemis que parmi les francs-tireurs. On ramena au village proche du camp deux morts qui y furent enterrés après que le curé eut célébré l'office des morts. Puis les francs-tireurs reçurent l'ordre de se replier vers l'est. Comme promis, les charretiers du village mirent chevaux et charrettes à la disposition des soldats et certains partirent avec eux pour les accompagner dans ce long et incertain périple. Corentin, qui s'était maintenant complètement rétabli, brûlait du désir de s'en aller. Il était heureux d'avoir recouvré toutes ses forces et d'être en mesure de combattre l'ennemi prussien auprès de ses compatriotes. Et surtout fier à l'idée d'intégrer les rangs prestigieux de la Légion bretonne. Il s'entraînait souvent avec ses camarades et ses duels amicaux à l'épée ou au sabre ne faisaient qu'attiser son impatience d'en découdre avec l'ennemi. Le désir de combattre palpitait dans ses veines et il en parlait avec fièvre et enthousiasme. Mais un jour qu'il débattait de stratégie avec des camarades qui se vantaient fièrement de leurs exploits guerriers récents, Corentin surprit le regard lourd et attristé d'Aubeline qui pesait sur eux. Il savait bien qu'en quittant cette forêt, la tête emplie de rêves de gloire militaire, il n'en laisserait pas moins une partie de son cœur dans cette chaumière. Et d'ailleurs, il ne pouvait manquer de voir que la tristesse rongeait Aubeline au fur et à mesure qu'approchait le jour du départ de la Légion bretonne. Malgré ses protestations, il lui avait juré qu'il reviendrait la retrouver quand la guerre serait finie. La jeune femme comprenait quel sentiment il éprouvait à son égard. Elle n'avait pas manqué de lui confier qu'après la terrible épreuve qu'elle avait subie entre les mains des soudards prussiens, elle ne pensait pas pouvoir un jour avoir à nouveau des relations amoureuses avec un homme. C'est sans importance, avait protesté Corentin. Ce qui est important, c'est que ton enfant a besoin d'un père, et si tu es d'accord, je serai celui-là. Mais Obline avait désapprouvé. Elle ne voulait pas d'une promesse par laquelle Corentin se serait senti obligé. Elle lui interdisait bien de faire quoi que ce soit par devoir ou reconnaissance. Il faut, affirma-t-elle, laisser faire le temps. Tu vas partir, tu vas combattre, tu vas voir du pays, rencontrer d'autres personnes. Peut-être m'oublieras-tu, peut-être non. Quand la guerre sera finie, je veux que tu te sentes libre d'agir comme te le dicteront alors tes désirs et tes sentiments. Et ne t'inquiète pas de mon sort, je saurai bien me débrouiller seul, comme je l'ai toujours fait depuis la mort de mes parents. S'il quitta à regret la forêt d'Orléans, Corentin fut bientôt pris par l'action, les escarmouches contre l'ennemi, les marches épuisantes, les ordres et les contre-ordres. Et c'est ainsi qu'avec ses compagnons de la Légion bretonne, il arriva jusqu'en Suisse où se réfugièrent un moment les francs-tireurs. Puis à leur suite, il gagna à nouveau la France. Mais alors qu'il remontait vers Paris, Corentin vit des enfants qui mendiaient le long de la route et qui se cachaient à l'approche des soldats. Brutalement, alors qu'il n'avait jusqu'alors pas eu le loisir d'y songer, il fut assailli par le souvenir d'Obline, le désir poignant de la rejoindre et de connaître l'enfant qu'il voulait faire sien. Et au lieu de suivre ses camarades qui, obéissant aux ordres, partaient réprimer une nouvelle révolution, il fit faire demi-tour à son cheval et le lança au galop pour attraper les charretiers qui regagnaient leur forêt.